Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Julien Dion, bienvenue au Frenchcast.
Merci, Pantelis. C'est le fun. By the way, c'est la première fois qu'on communique en français.
Ça va être bizarre. Puis les deux, on ne parle pas français. L'humour qu'on avait vu, comme mon stand-up et ton stand-up, c'était en français qu'on avait fait ça ensemble.
Oui.
La première partie de Mike.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, on sait qu'on peut parler en français.
Mais dans les loges, c'était tout anglais.
Tout anglais, ouais. À cause des réflexes.
Ouais,
c'est vrai. Avec Mike, c'est bizarre quand on fait un podcast en français.
Ouais.
Parce qu'on parle en anglais entre nous
deux.
Ça fait bizarre.
Puis là, même juste avant d'allumer les micros, là, on était full anglais.
Full anglais, ouais. Tu vois, à cause des réflexes. Mais tu vois comment maintenant je switch vite.
Ouais, ouais.
Avant, c'était plus difficile pour moi.
Ça fait combien de temps que tu parles français?
Ben, je parle français toute ma
comme
vie.
Toute ta vie, mais comme constant, comme où tu peux communiquer dans ton travail, dans ton métier. Genre.
Ben, quand je travaillais dans les bureaux puis tout ça, je parlais en français, mais mon accent était vraiment fort parce que les communications avec les clients étaient toujours en anglais.
Mm-hmm.
Alors, je parlais en français avec le monde autour de moi, puis c'était pas beaucoup. T'avais pas besoin parce que toute ta communication, c'était en anglais. Puis, à cause que je faisais le stand-up en anglais, je parlais en anglais, je consommais, tu sais, tout en anglais. J'avais pas de raison de parler en français. Alors, j'ai perdu beaucoup de mon français.
Puis,
OK. Au fur et à mesure de le refaire, puis faire du stand-up, là, ça revient.
C'est fou comment ça se perd vraiment. Comme moi aussi, c'est ma langue maternelle. Je suis acadien du Nouveau-Brunswick. Mm. Mais j'habitais à New York, Toronto. Puis quand j'étais à Toronto, j'étais serveur dans un restaurant. Je faisais du stand-up aussi, mais j'étais serveur dans un restaurant. Puis même que... Ça arrivait que j'avais des clients en français, je savais que c'était francophone, puis je continuais en anglais parce que j'imaginais où la conversation allait se rendre, les questions sur le menu, puis tout ça, puis c'est le fait que j'allais juste en anglais. Puis c'est ma langue maternelle, ça, je le perdais. Mais là, depuis 2018 que j'ai commencé à faire du stand-up en français, là, ça revient de plus en plus. En plus, j'habite à Québec, je suis à Wakefield. Ben, malgré que Wakefield, c'est comme 50-50, là, c'est comme...
Ah ouais?
Ouais, c'est une communauté qui a été établie par les Écossais et les Irlandais way back. So, c'est à peu près 50-50% anglophone, francophone.
OK. Moi, je fais l'effort, puis je pousse des humoristes anglophones ici
okay.
de le faire en français
oui.
pour s'habituer, pour oui. continuer, parce qu'ils ont peur. « Oh, je parle pas souvent, je parle pas bien. » Je dis « Ouais, moi non plus. » Mais si tu te pratiques, ça va devenir naturel.
C'est souvent ça que c'est la gêne.
Ouais.
Comme ma femme est anglophone, elle parle français, elle comprend très bien le français. Elle est née à Ottawa. Ça fait toute sa vie, mais c'est la gêne d'essayer. Parce qu'ils ne veulent pas faire d'erreur ou whatever. Puis je comprends.
Moi, je vais la motiver. Si, yeah. Écoute mon accent. Si moi, je peux le faire, tout le monde peut essayer.
On dirait que tu as comme un accent. C'est quoi l'accent?
C'est péruvien. C'est grec. Oh. Ben, je suis grec, alors
oui,
je
oui.
pense que c'est grec, mais je ne sais pas c'est quoi. Parce que lui, il ne parle pas comme moi.
Okay.
Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai un accent comme ça. C'est complètement...
Ça sonne comme si que j'écoute une série Netflix avec des dubs d'Afghanistan ou quelque chose.
Ouais, c'est bizarre, c'est pas un accent. Sur ça, quand le monde dit « Ah, oh, il est anglophone », puis après, je commence à parler en français, puis c'est comme « Mais c'est pas l'intonation, c'est, pas, c'est quoi ça? »
Ouais, ouais, c'est ouais. cool, c'est comme charmant, c'est comme musical, quand même.
Phil, ici, le réalisateur, lui avait dit que je parle grec en français. C'est okay. comme ça qu'il essaye de l'expliquer. Il dit « Je pense que c'est ça, c'est quand même. »
Ça fait bien du bon sens, parce que ton cerveau doit être programmé, parce que tu parles grec?
Grec, anglais, puis français.
OK. Ouais. Ouais, ton cerveau. Quand tu penses, en quelle langue penses-tu? Ça change-tu comme.
Maintenant, ça change, bro. Puis je me catch, je pense dans les trois langues. Mm-hmm. Pas dans la même fois, mais il y a des fois où je me parle à moi-même en français. D'autres fois aussi en anglais. D'autres fois c'est en grec. Ça dépend de la situation, de qu'est-ce qui se passe. Si je suis vraiment fâché, c'est habituellement en grec. Tu retournes à ta langue maternelle quand
c'est fascinant.
La passion, tu sais. Pour le stand-up, pour l'humour, maintenant, je pense beaucoup en français.
Ouais.
Ou quelque chose qui arrive, j'écoute la radio, quelque chose, puis ah, c'est tabarnak. C'est,
ouais,
c'est ça. Puis, comme des idées que j'ai, des fois, c'est en anglais. Comment oh, I should do this. C'est bizarre.
C'est bizarre. C'est vraiment malade, le cerveau, comment de niveaux et de layers qu'il peut avoir en même temps. Tu sais, quand tu fais du stand-up, tu es en train de faire un number ou un gag, puis tu es en train de penser à ton prochain, tu n'es même pas comme présent à ça. C'est la même affaire avec la langue. Puis moi, je trouve que ça varie. Si je fais beaucoup de shows en français, je commence à parler en français. Tu peux dire quand est-ce que tu comptes. Si je compte, 2, 3, 4, si c'est en français, je suis comme, OK, j'ai fait beaucoup de shows en français, whatever. Mais si je suis choqué ou pissed off, mon go-to, c'est cocksucker.
Cocksucker.
So, c'est comme...
Moi, c'est fuck ou tabarnak.
Ah, ouais. Moi, c'est cocksucker, puis... c'est pas mal ça, cocksucker, actually.
Tout le monde, c'était des cocksuckers. Comment est-ce que ça se passe maintenant en Gatineau, bro, avec ton podcast, tout, ça va bien?
Ça se passe très bien. By the way, c'est mon premier café ici en 50 jours. Non, 70 jours.
Pourquoi? Tu es en prison?
Je suis en prison. Je suis en prison mentale. Non, j'ai fait. Je fais le 75 Hard Wash, je fais le cleanse. J'ai une personnalité addictive comme big time. So j'ai arrêté de boire, d'alcool, fumer du pot. Je suis tout le temps. C'est kind of un running gag de ma vie. Je suis tout le temps en train d'arrêter quelque chose, tout le temps en train d'écouter. Mais c'est tout le temps un running gag avec
C'est trop amis. Excessif pour toi?
C'est trop excessif. Ben, ça commence en modération, puis là, ça build. Comme moi, c'est le weed. J'adore le weed. Trop. So, ça commence une fois de temps en temps, puis là, c'est dans peu de temps, c'est wake and bake, puis là, je suis gelé tout le temps, puis là, je ne
travaille pas.
Je ne travaille pas, je ne suis pas motivé, whatever. So, je suis tenté assez d'arrêter. So, là, ça fait 70 jours le café, ça fait 45 jours le weed, puis l'alcool. J'ai arrêté de me crasser, puis le porn aussi.
Mais c'est bon d'arrêter tout ça
c'est
pour
bon,
un peu.
Pour un peu.
Ouais.
Mais là, c'est malade, comme je viens comme une femme.
Le porn va te fucker, bro.
C'est ça. Trop
de porn?
Ouais, mais c'est ça.
Ouais.
Puis c'était comme... C'est pas que j'étais tout le temps sur le porn ou whatever, mais c'est que c'était comme une compulsion, tu sais, où que j'étais tanné, j'étais bored. J'étais comme, I guess que je vais me crosser. Comme je peux me crosser mou. C'est comme
point-là. Ça, c'est une addiction.
Ouais, c'est une addiction. So, je fais ça à peu près une fois par an où j'arrête tout. So, le weed, j'aimerais que ce soit permanent.
As-tu besoin? Pour être créatif, t'as-tu besoin du weed?
Ben, j'aime de penser que non, parce que j'aime d'être comme full nature. Puis, tu sais, quand t'as un iPhone, puis tu télécharges des applications, souvent c'est des applications que t'as déjà la technologie dans ton iPhone par défaut. Mais il y a des applications qui sont déjà ils sont juste comme repackaged, soit tu les downloads, puis tu utilises ça comme des différentes reminders. Puis tu l'as déjà dans ton téléphone. C'est kind of comme ça que je pense de mon cerveau. C'est comme. Par défaut, j'aime de penser que je suis créatif assez, que je peux écrire du stand-up, puis faire mes podcasts, puis tout ça. But, motherfucker, surtout quand je prends une pause de weed, puis je prends des jujubes, sativa surtout, oh my God, les idées qui me viennent, puis whatever, puis c'est comme, je peux punch up mes scripts, puis mes textes, puis tout ça. Puis je trouve que ça m'inspire. Même si j'aime pas l'avouer, j'aimerais te penser que mon cerveau, as is,
et assez bon pour faire
assez
ça.
Assez bon, mais des fois, c'est que ça. Surtout si tu as déjà écrit. Comme écrire de from scratch, je trouve que ça marche moins bien sur le pot. Comme mettons que je consomme du cannabis, whether je le fume ou je mange du jujube, là, j'écris quoi from scratch. Le lendemain, je check. Dans le moment, je suis comme, oh my God, je vais changer la game d'humour forever avec ce site, ça va être malade. Puis le lendemain, je suis comme, oh my God.
Texte de psychopathe.
Ça fait aucun sens. Mais si c'est une idée que j'ai déjà écrite, puis là, je consomme un peu de weed, là,
tu vois l'autre côté.
Différents angles, ça vient que je peux attaquer. So, je trouve que ça m'aide de ce cas-là, même si c'est devastating dans beaucoup d'autres. Area de ma vie, tu sais, comme, que ça me rend tellement lâche. Comme je fais plus rien. Sur là, quand j'arrête, je thrive, comme je suis beaucoup plus productive. Je fais mes podcasts, je fais tout, je me book un peu partout. Puis, so, anyway, tout ça pour dire, j'ai pris une sip de café, and I've never felt more alive, bro.
Ah, ouais, moi, c'est le goût, j'adore le café. Mm. Ça fait combien de temps que tu fais le stand-up, toi?
Ça va faire 16 ans au mois de décembre.
16 ans.
En anglais, puis ça fait 4 ans en français.
T'avais commencé, ben, t'es acadien, non?
J'ai commencé au Yakiaks à Moncton,
Moncton,
en 2006.
T'es pas en français? Il n'y avait pas de français là-bas?
Il n'y avait pas de français. Puis honnêtement, nous autres, au Nouveau-Brunswick, comme en Acadie, c'est différent qu'au Québec en tant que. On est beaucoup influencé par la culture populaire américaine.
OK.
Right? Moi, j'ai grandi à écouter Seinfeld puis Simpsons. Mais Simpsons en anglais. Comme...
Ici aussi, mais je trouve que les Québécois sont bons à comme, consommer, on va dire Netflix, les affaires anglaises pour voir c'est quoi, mais de rester quand même Québécois.
Oui.
Tu vois, de ne pas. Lâcher être québécois pour devenir américain. Ils peuvent consommer les autres cultures sans changer.
Ben, il y a tellement une huge culture québécoise. Ce qu'en Acadie, il n'y a pas comme.
Ouais, c'est
beaucoup
aussi.
Plus limité. I mean, il y en a. Mais, puis comme, je trouve, surtout dans les dernières années, comme 10, 15 ans avec Netflix, puis tout, là, t'as accès au monde, ta télé, power. So, oui, comme québécois, tu peux consommer beaucoup plus, mais comme. À l'époque, c'était beaucoup plus interne, comme les Québécois consommaient beaucoup, comme les Simpsons. Vous ouais. avez vos propres vedettes, comme Homer vient de décéder il y a comme 2 ans ou whatever, puis c'était comme les grandes nouvelles. Moi, j'ai aucune crise d'idée, c'était qui, le Homer, qui jouait Homer en français.
En français, Québec. C'était... Moi, je ne pouvais pas regarder ça, je riais trop, je me souviens, Marge. Homer! Pourquoi? Comme c'était trop bizarre pour moi. Quand je vois... que moi, j'aime regarder les films... dans leur langue originale.
Ouais, ouais.
C'est ça. Je préfère les sous-titres si je ne comprends pas. Les dubs sont bizarres pour moi.
J'allais te demander, comme c'était quoi la série coréenne? Voyons.
Oh, que tout le monde...
La huge one.
Tu regardais ça sur Netflix, toi?
Ouais.
C'était quoi, Poseidon?
Squid Game.
Squid Games.
So, moi, j'ai pas vu ça, c'était pas pour moi.
Ok, ben c'est comme ça. Ça, c'est comme le test intellectuel. C'est comme, ok, regarde-tu avec des subtitles ou dub? Moi, je suis un dummy, moi, je dub tout. Puis c'est pas le même show, I guess. C'est, tu t'en manques.
Ça, j'aurais dubé ça parce que c'est trop compliqué pour que je lis puis je regarde.
Ouais.
Mais comme les.
Je m'excuse d'interrompre. Le ouais. dub sur
c'est bon?
Cette émission-là, apparemment, c'était terrible.
Oui, oh. apparemment, c'était oh. même pas le même show que t'écoutais. Comme c'était. Ça donnait...
ouais. Ils ont pris les dubs d'une autre film.
Ouais. C'était Friends.
Ouais, ouais.
Moi, je peux pas écouter quelque chose. J'aime ça écouter les films et des choses comme ça dans la langue originale.
Mm-hmm.
J'aime pas ça.
Quand je peux. Peut-être, ouais, il y a des fois. Je pense que j'ai vu un film japonais sur Netflix, une série japonaise, Alice in Borderlands. Je me souviens pas. Je pense que peut-être j'ai dubé ça. Je me souviens okay. pas.
Ouais, so. Anyway, tout ça pour dire. Ouais. En Acadie, nous autres, on était beaucoup... Comme moi, c'était Simpsons en anglais, c'était Seinfeld, c'était tout Saturday Night Live, c'était tout stand-up en anglais. Jusqu'à quelques années passées, puis vraiment quelques années, comme 2-3 ans, ben, 4-5 ans, je connaissais vraiment pas beaucoup d'humoristes québécois. Je connaissais Mike, sûrement, je connaissais une couple d'autres. That was it. Comme,
juste les grands noms.
Les grands noms. Pas avant que j'ai commencé à en faire, que je connaissais. Puis même les grands noms, je ne connaissais pas comme... beaucoup, beaucoup, tu sais, comme en musique non plus. To this day, je dis tout le temps, comme mes référents de culture populaire québécoise, c'est Mitsu puis Éric Lapointe. That's it. C'était comme pour moi ça. So, pour cette raison-là, à moi, c'était toujours... Je voulais faire du stand-up depuis une jeune âge, puis c'était comme juste naturel que ça allait être en anglais. C'était comme ça, puis... il y avait l'idée qu'en anglais, ça ouvre plus au reste de la planète,
tu sais, ouais.
beaucoup plus d'opportunités. Mais, I mean, ça a tout changé depuis que j'ai commencé à le faire en français, mais ça, c'était kind of ma philosophie au début. Vu que je suis acadien aussi, comme pour les premières années, j'ai eu beaucoup d'opportunités à le faire en français, mais je me disais, l'énergie que ça prend à focuser puis monter un number ou un spectacle dans une langue, je vais juste le faire en anglais. So, j'ai dit non, beaucoup de fois. Puis là, c'était pas avant 2018 que j'ai fait mon premier number en français.
Où
puis
ça?
C'était durant le cadre du Hubcap Comedy Festival à Moncton. Puis j'étais sur un show bilingue. C'était animé par Derek Seguin. Il y avait moi, Eddie King, puis Niamh.
OK.
Puis c'était un show bilingue. So, je pensais faire anglais, Derek anglais, Eddie puis Niamh en français, obviously. Puis... comme une semaine avant le show, le directeur du festival, Robert Galland, m'a appelé, puis il était comme, puis ton number français, ça s'en vient. Je suis comme, what the fuck, tu parles? Cocksucker! C'est comme, qu'est-ce que tu parles de?
On lui pensait qu'il t'avait booké pour faire ça en français.
Il m'a booké pour faire ça en français. C'était un switch. Il dit, non, on fait un switch. Il dit comme
Français-anglais.
Et Eddie vont faire anglais. Puis toi, puis Derek vont faire français.
Ça, c'est intéressant.
On fait un thème, comme c'est comme un switch-up. C'est ça le whole thème du gala. C'est comme des humoristes français, ça c'est en anglais, des humoristes anglophones, ça c'est en français.
Ça c'est cool.
C'était cool, mais je ne le savais pas du tout. So, j'étais comme, oh my God. So, j'avais une semaine à me préparer. Il dit, honnêtement, tu peux switcher back and forth. Tu peux comme.
Si t'en as besoin.
Ouais, si t'en as besoin, fais-toi-en pas. Je dis, non, je vais. C'est finalement, j'ai la chance, l'opportunité de me forcer puis de le faire en français. Je vais le faire en français. So, j'avais une semaine, typical mentalité de stand-up anglophone. Parce qu'en français, au Québec, les humoristes travaillent beaucoup plus fort, mais j'ai rien fait pour la semaine. So, là, c'était la journée du show, puis j'étais avec Aaron Berg. Il était à Moncton Fellow Festival. Puis on a été s'entraîner. By the way, il ne va jamais t'entraîner avec Aaron Berg. C'est incroyable, humbling.
Il est trop fort, hein? Ouais,
Aaron. So, anyway, on était au Good Life sur la main à Moncton. Puis là, what's going on, buddy? You look stressed, whatever. On était coloc à New York, puis Aaron.
Oh, ouais?
Très bien.
Ouais, oh, ça va pas.
Oh, j'adore Aaron. Great guy.
Oh, ouais, très bon.
Puis, what's going on? Je dis, je faisais un set à soi en français. Il était comme, so? Puis Aaron comme son personnage sur scène, c'est beaucoup comme crass, puis
ouais,
comme
whatever. Ouais.
But Aaron actually
vraiment trash.
Vraiment trash. Puis, but en personne, Aaron, c'est comme la personne la plus positive, motivante, super nice guy. Puis comme, what the fuck, why? She dit, I don't know, I'm stressed out. I have to do a set in French. She dit, but you're French.
Yeah. Ben, un excellent point.
Ouais, je dis, OK, point taken, excellent point. Puis il dit, I know, but I haven't written anything. Il dit, so you're a comic. Go do it. You can just go up there and find the funny. Do it in French. Puis ça m'a tellement apaisé. Comme aussitôt qu'il m'a dit ça, just a weight lifted off my shoulders. J'étais comme, oh my God, of course. Il dit, how long do you have to do? J'étais comme, 10 minutes? Shut the fuck up, man. Il dit, come on. Il dit, just go up there and speak French. Do your act in French. J'étais comme, OK. So j'ai fait un set list, mon pacing, un set que j'aurais fait en anglais pour un 10 minutes. Je pensais que je vais juste traduire in the moment sur scène. J'avais l'avantage que c'était mon hometown.
Ouais.
Puis je connaissais tout le monde. Puis c'était au Théâtre Capitole. C'était comme 700 personnes.
Puis aussi,
là.
C'est ta langue maternelle.
C'est ma langue maternelle. Ouais. Of course. So, mais vu que c'était à Moncton, puis pas comme à Québec, la ville de Québec, ou à Jonquière, tu sais, je pouvais parler comme que je parle par chez nous. So, il y avait beaucoup plus de mots anglais. Puis ça que je fais quand je joue maintenant en français. Mais ça a très bien été. C'était great. Puis François Simard était là avec Juste pour rire. So, ça, c'était février. Actually, c'était février 2017. Puis je n'ai pas fait de nouveau pour presque un an. Puis là, à l'époque, François bouquait les galas d'un rire à l'autre. C'était à Edmonton, en Alberta. Puis il m'a appelé comme 8-9 mois après. Puis il a dit... Je vais booker sur un gala juste pour dire d'un rire à l'autre à Edmonton. Ça, je dis, okay, ça,
mais je comprends pas, à Edmonton, ils font ça en français?
Ouais, c'était partie des rendez-vous de la francophonie. Ils l'ont fait pendant 5 ou 6 années, 5, 6, 16 ans.
Il y a beaucoup de francophones à Edmonton?
Oui, I guess.
Oh, ça, c'est intéressant.
I mean, c'est une petite salle, c'est juste comme 200 places ou whatever. But,
c'est 200 plus que je pensais?
Ouais, ben c'est beaucoup d'expats, c'est beaucoup de Québécois qui vivent là, qui sont sur les oil rigs ou whatever, qui travaillent. Mais comme, il y a une tournée, les rendez-vous de la francophonie, c'est genre 35 dates. Je l'ai faite en 2019, j'ai fait toutes les dates. Tu vas de Terre-Neuve à Victoria. Puis, I mean, il y a des francophones partout, man. C'est malade.
Ça,
comme,
c'est cool.
Yeah, on a fait Saint-Jean, Terre-Neuve, on a fait Halifax, on a fait Charlottetown, on a fait Moncton, on a fait Montréal, on a fait Ottawa, on a été à Manitoba, on a fait 4-5 petites places à Manitoba, incluant Regina puis Winnipeg, mais là, tu vois, comme en région. Là, comme, bah, il y a beaucoup de franco-manitobains, beaucoup.
Ouais.
Juste comme original franco-manitobains.
Rich me disait ça.
Ouais, puis whereas partout... Si, comme à Vancouver, c'était beaucoup de Québécois. On était à Whitehorse, on était à Nunavut. On a été...
Allez à fucking Nunavut.
Ouais, j'étais avec Mike, actually. Mike, on a fait un show en français puis en anglais. Puis moi puis Mike puis Eddie King.
Oh shit, c'est un bon groupe.
Ça, on a pu faire on a fait un show anglais la première soirée puis pour comme 200 personnes. C'était comme electric, crazy. Puis un show pour comme 60 francophones la soirée d'après. Mais... on était à Vancouver, Victoria, Calgary, Edmonton. So, but durant la run, à Edmonton, ils faisaient un tournage. C'était les gars-là, puis c'était sur Unity TV. C'était comme...
Personne va le voir.
Personne n'a vu ça. Ils ont fait 5 ou 6 saisons. Ils ont fait les premières 4 saisons ou 5 saisons à Edmonton, puis la dernière saison à Moncton au Théâtre Capitole. So, ça, c'était ma première fois où il fallait que j'écrive un texte, comme j'avais jamais... J'étais pas habitué à écrire comme pour la TV. Ils m'ont dit, OK, soumets un texte, puis... Cela, c'est comme, OK, c'était juste la deuxième fois que je faisais stand-up en français, puis là, ça m'a forcé là vraiment comme scriptidité. C'est...
Moi, je déteste ça pour le stand-up, d'écrire des textes.
Ah, c'est...
Je déteste ça.
C'est le pire.
C'est le pire, puis tous les stand-up vont vous dire ça, mm-hmm. Mais le monde qui ne sont pas des stand-up, qui demandent pour les textes, ils ne comprennent pas comment c'est... On change dépendant de la situation. Ça peut être des mots, même tout un concept qu'on va oublier parce que okay, ça ne marche pas avec eux, je dois changer à l'instant. Mm-hmm. Alors, les textes ne servent à rien.
Ça sert à pas grand-chose, c'est vrai. I mean, malgré que même si tu soumets un texte puis le changer on the fly comme...
Ils vont faire quoi?
Moi,
sur la scène.
Ouais, au moins que tu punch out eux-mêmes qui peuvent avoir le cue que tu as fini. Là, le milieu, c'est un peu kind of. À moins que tu ne sacques pas et que ton matériel est trop trash ou whatever, mais tu peux le changer. Mais ça, ça m'avait forcé à juste vraiment l'écrire, enlever les mots anglais, tout ça. So. Puis là, j'ai fait. Mike était là cette année-là. Mike, Phil Bond.
Ouais, il était là.
Puis,
et t'as-tu laissé sortir de son auto ou non?
Mais ça, c'était actually. Ça, c'était comme te montrer un point comment est-ce que je connaissais pas du Maurice québécois. J'ai rencontré Phil Bond pour la première fois. J'ai aucune crise d'idée c'était qui. Je vois sur Facebook, 300 000 followers sur sa page.
Ouais.
Ça, c'est comme le disconnect qu'il y a en Acadie puis le Québec. Puis c'est juste une province à côté de l'autre. Puis je connaissais aucunement. Plein d'humoristes. Comme
écoute,
des
humoristes moi, je viens d'ici et je ne les connaissais pas. Alors, imagine.
Je sais, c'est comme... Qu'est-ce que ce monde vend des billets-là? Comme des têtes blanches, je ne sais pas. Anyway. So, je pense que je vais shit mes culottes avec ce café ici. I love it.
Si tu as besoin d'aller à la toilette, dis-moi, on va prendre un break.
Non, pas vraiment. Mais... So, c'est pas mal ça comme au début du stand-up en français.
T'as jamais arrêté, t'as dit non, moi je continue.
Là, j'ai continué. Pour la première année, je n'ai pas fait. Puis là, après mon premier rire à l'autre, j'ai signé avec Juste pour Rire Management, avec François puis Gigi.
Es-tu bon avec toi? Parce que j'entends plein de choses pour le management de Juste pour Rire que des fois, comme, ils font pas grand-chose. Ou... Tout le monde a ses histoires.
Ben, c'était bon pour moi dans le sens que, j'ai une maison à Wakefield. So, je suis pas dans le centre. Okay? Je suis à 2 heures de route. Actually, je viens juste de me prendre un pied à terre à Montréal, by the way.
Oh, nice!
Ouais. So, je suis pas loin de site. So,
very good.
We're hanging out.
Ouais.
J'ai besoin de des chums.
Ouais, mais nous, on est proche d'ici.
OK, cool.
À 10 minutes, c'est
ouais. Ouais, je viens juste de me prendre, j'ai payé mon loyer le 1er octobre.
Oh, c'est fantastique. Boom. Alors, tu vas faire des sets au bordel?
Ouais.
T'as parlé avec Mason?
Ouais.
Oh, nice,
Ouais, je l'ai dit, j'ai un pied à terre à Montréal still, so I'm in, baby. I'm in. Book me.
Nice.
So, c'était bon pour moi de signer avec Juste pour Rire Management parce que j'étais pas ici tout le temps. Puis, en humour, c'est comme out of sight, out of mind. Ouais. Right? Souvent, c'est comme, c'est jamais personnel. C'est rarement personnel.
On va pas penser à toi si t'es pas là parce qu'ici, il y a plein d'humoristes.
Exact. So, puis c'est comme, même moi, étant que, tu sais, quand je book ma soirée ou les soirées que j'ai produites dans le passé, c'est qu'il y a des humoristes que je bookais pas puis qui étaient choqués après moi, c'était rien de personnel. C'est juste, je te vois jamais, j'y pense juste pas. So, c'est comme, faut que tu sois alentour. So, être avec Juste pour Rire Management, c'était un bénéfice pour moi à ce point-là. Mais il y avait d'autres choses qui marchaient moins bien. Tu sais, comme, j'avais un gars-là qui passe à la télé puis je le découvrais comme 2 jours après. C'est comme, ah ouais. Puis c'est moi qui les disais, comme, hey, mon gars-là a passé. C'est comme, ah ouais, c'est vrai. C'est comme, moi, un manager, c'est vrai, comme, hey, by the way, ça s'en vient, jeudi, t'es au gars-là, tu sais, let's go, on va l'écouter. Il y avait des stuff comme ça, des contrats qui ont été droppés, comme, j'étais supposé faire un corpo, puis là, comme, dernière minute. J'étais comme, j'ai pas de détails pour le corpo de demain. Ah ouais, annulé la semaine passée. J'étais comme, ok.
Ben, tu dois me dire ça.
Il y a comme une couple d'affaires comme ça qui était un peu moins professionnel, mais overall, c'était bon pour m'établir un peu. J'ai fait toutes les soirées, j'ai fait everything. Tu sais, j'ai tourné avec les autres, rendez-vous de la francophonie. J'ai fait les gars-là d'un rire à l'autre, puis Comédia, puis Trait d'humour, tout ça. Je les ai fait à tous les années, de 2018 à 2021. So, c'était bon d'être comme. Ça m'a fait être connu avec les gatekeepers, les bookers, puis tout ça, les producteurs, puis. Les diffuseurs, puis j'ai animé une soirée juste pour rire à Saint-Hyacinthe. So, c'était comme good de ce sens-là. J'étais avec eux autres pendant comme 2 ans, puis là, on a split ways.
Maintenant, tu fais ça toute seule, indépendant?
Je suis toute seule, indépendant, j'ai pas de gérant. Comédia me book, je suis avec eux autres pour des corpos. exclusivement.
Es-tu bon pour booker le corpo?
Je viens juste de signer, je te dirai dans
dis-moi, je suis curieux.
Ça de là, so far so good. I mean, ils sont pas mal sur la coche.
Ouais,
incroyablement sur la coche. Marie-Pierre Gravel puis Alex Dénommé, mes agents, comme d'hier, sont vraiment, vraiment sur la coche. Comme, je les parle presque tous les jours. Puis c'était la première fois que j'ai signé avec eux autres. C'était la première fois que j'étais dans 15 ans, 16 ans de carrière, que j'étais dans un meeting avec une agence où ce que la vibe était que je voulais vraiment que je signe. C'est habituellement comme, tu sais, please hire me, comme,
ouais.
I'll do my best. Puis c'était le contraire, c'était comme, je voulais vraiment clairement travailler avec moi, ils ont fait ça clair et précis. Ils connaissaient mon background, ils connaissaient tout de suite, ils ont fait leur recherche, j'étais comme, wow, comme c'était.
Oh, ça c'est cool.
C'était vraiment cool, puis comme je dis, c'est la première fois en 16 ans que ça arrivait, ça c'était comme.
Moi, je suis le contraire. Je déteste tout le monde. J'aime ça le faire toute seule. Ouais. Mais pour moi, c'est plus facile à cause du Frenchcast.
Ben oui. Ben oui.
C'est mes pubs.
Ouais.
Je peux aller booker des salles parce que le monde va me connaître à cause de l'Internet.
Ben, t'as vraiment bâti quelque chose de spécial, puis t'as comme suivi vraiment le modèle kind of américain de comment, comme avec le podcast, puis tes réseaux, puis comment tu branch out là-dedans. Comme, parce que souvent, c'est comme, parce que tout le monde a un podcast, right? C'est comme, c'est presque obligé. C'est comme ta calling card. Si tu n'as pas, c'est weird. C'est comme si quelqu'un te découvre que tu es humoriste, puis ils vont chercher pour un podcast, puis tu n'as pas, c'est comme si tu n'as pas de site web.
Caches-tu quelque chose, lui?
Ouais, c'est comme, mais toi, tu as comme bâti ça, puis tu utilises ça pour te booker, puis pour bâtir tes fanbases, où c'est souvent le contraire, où que les gens ont comme, ils sont comme, c'est ce que je veux dire?
Il s'établit, puis après, ils font... Ouais. Non, moi, c'est... Parce qu'au début, c'était trop difficile d'essayer de te faire booker en anglais, par exemple. Il n'y a pas de travail. Alors, si je n'avais pas les réseaux, je n'avais pas des podcasts, c'est impossible de percer. Right. Mais en français, ça a vraiment rajouté tout pour moi. Ça a changé tout le game pour moi. C'est beaucoup plus facile pour moi maintenant.
Puis comment d'épisodes tu avais en anglais avant que tu aies fait le switch en français?
Pas le switch, mais
que tu as ajouté le...
Ouais. Tu veux dire le stand-up ou le podcast?
Notre podcast.
Le podcast, c'était un peu une joke. C'est pour ça que même le logo, c'était le logo du podcast. Avec le French, c'est le Frenchcast. C'est un peu une joke parce que le monde disait, hey, fais ton podcast en français.
Mm-hmm.
Puis comme le stand-up, je disais, ben ça n'a pas marché. On va faire des tests. Tu sais, je vais faire le Frenchcast, le seul, parce que j'avais mon accent, le seul podcast anglais qui est en français. J'ai invité Yann Theriault pour faire le premier épisode. Puis le monde a aimé ça. Puis j'étais comme, ah, fuck, peut-être le Frenchcast, peut-être c'est, ça peut marcher. Alors, j'ai commencé à inviter mes amis du milieu francophone, Michel Grenier. Au début, c'était juste les gens que je connaissais personnellement. Tu sais, je pouvais pas comme inviter des gens qu'on se connaissait pas parce que c'est un nouveau podcast.
Ouais.
C'est en français, puis j'étais un anglophone, allophone. Alors, c'était trop difficile. Mais mes amis qui venaient au podcast étaient des gens vraiment comme intéressants. C'était drôle, c'est beaucoup du fun. Alors, le monde aimait ça. Moi, je commençais à aimer ça de plus en plus. J'étais plus confortable, plus à l'aise en français. Après, il y avait d'autres gens qui je ne connaissais pas, mais étaient grands dans le milieu, qu'eux, ils voulaient le faire. Ils étaient vraiment intéressés par le concept, puis ils aimaient que je mettais un effort. Puis c'était des grands noms. Alors, ils ont dit, non, moi, je veux faire ça. J'étais comme, what the fuck, ça, c'est...
Ouais.
Les grands noms en anglais ne vont pas nécessairement faire un podcast d'un francophone qui essaie de le faire en anglais.
Right.
Mais en français, c'est différent. Alors là, j'ai vu ça, puis j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup de support du monde, du public. Alors, je dis, OK, si eux, ils me supportent comme ça, ben maintenant, c'est le temps que moi, je mets 10 fois l'effort. Eux, ils font un pas vers moi, moi, je vais faire fucking 10 pas vers eux.
Ouais.
Puis ça consommait tout, ça a commencé ça. Après, je commençais à faire beaucoup de stand-up en français à cause de Mike. Puis je rentrais dans le milieu, puis maintenant, ça fait partie de moi. Je peux pas penser à ma carrière ou à mes journées sans penser du Frenchcast ou de faire mon stand-up en français. Mm-hmm. C'est vraiment ça. Comme le bordel, maintenant, c'est la place que je suis le plus confortable.
Mm-hmm.
Puis si tu me disais ça fait 4 ans ou 5 ans, je te dirais c'est ridicule. Ça va jamais marcher.
Crazy.
Puis maintenant, c'est chez nous.
J'y pense de faire mon podcast en français, mais j'ai pas de raison de pas. I mean,
tu devrais.
Ouais.
Puis ils sont plus comedy nerd. C'est pour ça que je te dis, au Québec, ils ont un pouvoir ici que j'aime. Ils peuvent consommer tout le contenu des Américains, le Seinfeld, tout. Comprenez qu'est-ce qui marche là-bas, pourquoi c'est bon, mais continuer d'être Québécois, puis l'appliquer ici. Alors, des fois, moi et Mike, on a des références que tu penses, oh, les Américains vont savoir ça. Mais toutes les comedy nerds ici connaissent toutes les références, connaissent tous les podcasts anglophones américains. Ils connaissent tout ça, mais dans le contexte francophone, ils comprennent pourquoi on l'utilise. Puis oh, ça, ça vient de là. Lui, la référence est de là. On n'a pas à faire dumb down. Mm-hmm. Ils sont au courant.
Okay.
Puis des fois, il y a des publics en anglais ici qui ne vont pas comprendre les références parce qu'eux, ils sont vraiment... Oui. C'est juste ici, c'est juste Canada. C'est juste, ils sont vraiment fermés.
Oui, oui, oui. Ouais,
alors, ça marche. Dès que tu mets un peu d'effort, tu vas voir que shit, bro, ils sont en connaissance de tout. Tout, 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 tout.
Ouais, c'est vraiment... Ben, il y a vraiment une vague de comedy nerd dans les dernières comme 5, 6 ans, plus 10 ans même. C'est comme, où, comme t'as dit, ils consomment tout, les petites nuances, puis les podcasts, tout. Puis il y a tellement de contenu out there, c'est incroyable. Puis il faut juste...
Je vais donner un exemple. Ça date de quelques mois maintenant. On avait fait une épisode spécial au bordel live. C'était un dimanche. C'était moi, Mike, puis Andrew Schultz. Mm-hmm. Andrew Schultz est un très grand humoriste américain. Il a un podcast, des specials, il est très, très bon. La majorité du crowd, c'était des francophones. Puis même après ça, quand on avait sorti ça, les francophones étaient comme « Oh shit, Andrew Schultz, ça c'est important. » Puis il y avait des anglophones qui étaient comme « C'est qui lui? C'est quoi? Crazy, qu'est-ce qu'il fait?
Hein? » Ouais.
Puis il est comme « T'es sérieux? Il y a eu des plus grands noms. Ouais. » Puis les francophones sont au courant de son podcast, de qu'est-ce qu'il fait, tout ça. C'est pour ça que je te dis ça. Puis c'est important de pouvoir consommer, mais de rester toi-même.
Ouais.
Puis eux, ils peuvent faire ça.
Ben oui. Ben que ce soit en français ou en anglais, le contenu, que ce soit en français ou en anglais, je trouve que les Québécois ont une relation spéciale avec l'humour. Comme c'est l'art form numéro un. Comme.
Numéro de loin.
Puis même les Québécois anglophones tombent dans le stéréotype de Canada anglais où ils s'en crissent. Comme tu as dit, ils ne connaissaient pas Andrew Schultz, qui est un des plus grands noms.
Au milieu de l'humour.
Au milieu.
Ouais.
Period. End of. Puis c'est comme... Comme en anglais, je peux pas te dire comment de fois quelqu'un m'approche puis serait comme « Ah, dude, j'étais au Yak Yak il y a deux semaines, puis le headliner, c'était le plus funny humoriste j'ai ever vu de ma vie. » Je suis comme « Ok, je le connais sans doute, c'est qui? » J'ai comme « J'ai aucune idée. »
Ouais, puis habituellement, si tu vois cette personne-là, c'est du matériel hack.
Right.
C'est du matériel qu'ici, au bordel, par exemple, aux open mic, tu vas pas le voir.
Right.
C'est quelque chose vraiment... Moi, je vois ça au Canada, puis je suis comme « Mais tu peux pas améliorer ton milieu.
»
Ici, ils prennent ça vraiment au sérieux. Tu sais, hier, j'ai fait le show normal, puis après ça, il y avait l'open mic. Alors, j'ai resté parler avec mes amis. Pratiquement tout le monde avait un cahier plein. Comme Charles Brunet me parlait, c'était plein son cahier avec des idées, puis qu'est-ce qu'il pense. Même s'il n'y avait pas beaucoup de temps, c'était l'open mic, mais peut-être juste avant, il aurait décidé, non, je vais changer, je vais parler de ça aujourd'hui. Tu sais, il était fucking, il travaille.
Ben, j'ai remarqué ça quand j'ai commencé à faire du stand-up en français. T'arrivais dans une loge, puis il y avait comme un réfrigérateur plein de bière, right?
Wow.
Puis il n'y a pas un chat qui le touche. C'est comme personne en train de boire avant. Après, sure, le monde va se défoncer, fine. Mais avant, comme tu as dit, tout le monde est dans leur note.
C'est des professionnels.
En anglais, t'as un fridge plein de bière, ça.
C'est fini.
Le monde va être blackout sur scène. C'est comment de bière qu'on peut boire avant le show. Puis ça va être comme une game. On voit comment drunk on peut être sur scène.
Ouais.
Puis comme tu as dit, le travail souffre. Je ne veux pas mettre tout le monde dans la même catégorie.
C'est pas tout le monde, ouais.
Parce qu'il y a des headliners.
On généralise un peu.
Ouais. Il y a des headliners qui font des comedy clubs. Comme moi, je fais des comedy clubs en anglais. Je ne me considère pas un hack. Tu sais, je travaille.
Non, mais ce n'est pas tout, bien sûr. Mais je veux juste dire que ça arrive beaucoup.
Il y en a beaucoup qui font le même 45 minutes qu'ils ont écrit en 94. Puis ils vont de ville à ville. Ils sont toujours juste un step en avant de Taxman. Tu sais, puis c'est comme...
ouais, ils parlent des magasins qui sont fermés. Ils ont fait faillite, ça fait 10 ans.
Alors, j'ai un humoriste. J'ai un humoriste qui a fait en anglais. Ouais. Il parlait d'une femme qu'il a vue. Puis il voulait dire qu'elle était belle, mais elle n'était pas si belle que ça.
Ouais.
Il dit « She was hot, but she was no Cheryl Teagues in a swimsuit. »
Cheryl Teagues?
Poseidon, look up Cheryl Teagues. C'est pour voir si elle est même en vie encore. Je pense qu'elle est décédée. Cheryl Teagues. Puis c'est un référence. C'est comme... Cet humoriste-là est décédé, Bob Keel, rest in peace. Mais il a fait la référence-là, ça fait pas longtemps, comme 5-6 ans passés. Ça, c'est Cheryl Teagues in a swimsuit. So.
Elle a 75 ans.
Okay. Exact. C'était ça son référent, dude. Récemment, comme in recent years. Puis,
tu peux changer tes références.
Ouais, ben oui, c'est facile. Tu as juste besoin de changer comme c'est super facile. Elle était hot, though.
Elle était vraiment hot, ouais. Il y avait raison.
Va donc sur le maillot blanc, nouveau en mèche, que tu avais juste là. Juste là, ouais. Regarde-moi la patch au fait de la noun.
Ah oh, ouais.
Ça a l'air d'une couche. On dirait. C'est comme quand on a un turn-off. Tu commences en haut, tu es comme wow, sexy, wow, tu vois les nips, hot. Là,
mais ouais,
vois...
je ne peux pas montrer son bouche.
Puis là, tu vois, c'est vrai, c'est tout.
C'est excessif.
Mais anyway, c'était ça le référent. Puis aussi, un autre humoriste, il a fait un joke où puis, le public était c'était kind of comme une
shock
reaction. Puis il dit, what happened? Did Joni kiss Chachi behind me? I mean, ça c'est in recent years. Actually, cet humoriste-là aussi est décédé. Lawrence Morgenstern, rest in peace. Mais ça t'est arrivé ça dans les derniers 7 ans. Puis c'était comme des référents que tu peux updater facilement.
Tu penses que c'est l'univers qui les a tués? On arrête ça ici.
Tu peux juste faire tant de hack set jusqu'à temps que you're dead. You know?
Mais moi, je pense que c'est la culture qui fait partie de ça. Le système canadien, pour moi, parce que j'ai vécu ça, mm-hmm. j'ai commencé en anglais, c'est bizarre. C'est l'affaire de... Tu dois rentrer, tu dois être bon dans un club, mm-hmm. on va dire le Yuck Yucks ou whatever, il doit t'aimer. On s'en fout si t'es bon ou non, mais eux, ils doivent t'aimer pour te donner une petite tournée pour eux, mais ça te paye pas assez des fois. Tu sais, il me disait, du monde qui était booké avec Yuck Yucks, il me disait des fois, une partie de leur tournée, je pense quand ils étaient en Est, des fois, t'arrivais puis t'étais à zéro parce que tu
oui,
payais...
Dans
ou dans le trou parce ouais. que tu payais ton hôtel, tu payais plein de choses ouais. qui ne marchaient pas puis te payaient pas beaucoup. Mm-hmm. Puis ça ne marchait pas, c'était vraiment bizarre. Mais c'était juste comme ça, où sinon tu ne peux pas sortir. C'est pour ça que j'aime l'Internet et les podcasts parce que pour moi, c'est le great equalizer.
Ouais.
Maintenant, tu as le pouvoir de promouvoir tes affaires. Mm-hmm. Le monde te voit et t'aime. Tu peux booker tes propres salles. Puis habituellement, toutes les salles que tu au Canada, la majorité vont faire ça pour $0 si... tu donnes ou bien moitié-moitié avec les billets ou bien tu donnes le bar au complet à eux puis toi, ouais, tu prends les billets.
Ouais.
Moi, pour moi, je pense que ça, c'est le meilleur deal parce que eux, écoute, ils n'ont rien à perdre. C'est pas comme si ils vont te payer. Toi, tu te fais payer par tes billets, alors essaye de vendre des billets. Puis eux, ils vont faire l'argent avec la bière comme si c'était une bar night.
Mm-hmm.
C'est un bon deal, tu peux faire ça, mais tu peux jamais faire ça si personne ne te connaît, personne ne va sortir.
Ben,
c'est pour ça que l'Internet est fort.
C'est, honnêtement, c'est Yuck Yucks qui a touché ça dans le Canada anglais.
Mm.
Le Canada anglais est unique comme scène d'humour. Comme aux États-Unis, c'est beaucoup similaire du Québec, right? Le star system, tout ça. C'est pour ça que en Europe, même chose, star system, en Australie. C'est comme. Canada anglais est unique dans le sens que je ne sais pas si c'est quoi l'expression en anglais, en français, mais en anglais, c'est they cut you off at the knees.
Ils te coupent au genou.
Ils te coupent au genou. C'est simple, ça. Je overthink celle-là. But anyway. parce que Yuck Yucks a commencé à l'époque, puis Jeff Silverman, t'as Mark Breslin qui est le founder et CEO de Yuck Yucks, mais t'as Jeff Silverman qui est le président. So, Jeff Silverman avait écrit un livre à l'époque, puis il se braque de ce site, où ce que, back in the day, huge comedy boom des années 80, t'avais juste comme 9 ou 10 humoristes qui étaient rostered sur qui étaient comme...
Il faisait partie du Yuck Yucks,
ouais.
Le brand.
Là, il y en a comme 350. Mais il y en avait littéralement 8 ou 9 ou 10. Ron Vaudry, Bob Keel, que je viens juste de mentionner, Lawrence Morgenstern aussi. Anyway, Larry Horowitz, une couple d'autres. Puis, il faisait des shows à des Yuck Yucks, puis c'était plein de monde, puis c'était des killers, puis c'était comme... Puis c'était pas des hacks à l'époque, parce que c'était des originals, c'était comme... C'était nouveau. So, ils ont été à Yuck Yucks, puis ils ont dit, on veut une raise, vous nous payez pas assez. Puis comme les clubs...
Augmentation
de salaire. Les clubs sont pleins de gens. Puis c'est des gros clubs. Le Toronto Super Club, Yuck Yucks, c'était comme 250-300 places. Des huge comedy clubs, c'était plein.
Ils ne payaient rien.
Puis c'était des lignes autour du bloc pour 2-3 shows par soir. C'était juste malade. Ils ont été à Yuck Yucks, puis ils ont demandé pour une augmentation de salaire. Puis Jeff Silverman a dit, c'est pas vous autres qui vend, c'est Yuck Yucks qui vend. C'est le nom Yuck Yucks. Vous avez pas rapport. Les humoristes sont threatenés comme qu'ils ont fait aux États-Unis. Puis
ils ont fait des menaces qu'écoute,
on va faire une strike, je sais pas comment c'est
ça.
Puis une grève.
Ouais.
Puis Jeff Silverman a été au cimetière, puis il se braque de ce site de son livre. Il était au cimetière, il a pris 3 noms d'humoristes décédés, il a mis sur le marquis. puis sur l'affiche, puis c'était sold out. Il a dit, c'est pas rapport avec vous autres, c'est nous autres qui vend. So, depuis le début, Yak Yaks a été dans le business de vendre le nom Yak Yaks. Que quand tu vas au Yak Yaks, tu vas voir un show du mois, puis sans Chris, qu'est-ce que les humoristes qui sont là. So, ça a créé un système dès le début, ça a buildé ça c'était la fondation. So, c'est comme. Puis tous les autres comedy clubs ont pris ce genre d'approche-là. Il y en a une couple d'indépendants qui sont un peu différents, comme un comic strip à Edmonton, puis ça, ils promotent vraiment les headliners. Mais Yak Yaks, c'est comme. Sure, si tu vas sur leur site web, tu peux voir qu'est-ce qui s'en vient, mais c'est Yak Yaks qui vend le nom. Puis d'autres comedy clubs ont fait la même chose. So, ça a kind of fucké le whole système dès le début. Puis c'est ça la grande différence. So, là, ça a venu que, comme j'ai dit plus tôt, les publics ont aucune idée de qui les headliners. Okay? Ils disent, j'ai vu le best humoriste que j'ai ever vu de ma vie. C'était quoi son nom? J'ai aucune idée. Tu vois, en français, tu fais un number, 8 minutes, c'est un show. Tu fais une première partie, whatever. Tu débarques la scène, tu as 11 nouveaux followers sur Instagram, tu as 22 likes sur Facebook. C'est comme les gens catch tes key, puis te suivent parce que c'est l'art numéro un, comme above all au Québec. En anglais, j'ai entendu quelqu'un dire, ça rank juste en arrière de backyard amateur wrestling, que personne s'en crisse. C'est comme...
Ouais, t'as raison. Ouais.
So, à cause de ça, ça prend, comme tu disais, ils payent pas beaucoup. Puis à cause de ça, au Canada anglais, ça prend 10, 12, 15 ans avant de headline un comedy club. Okay? Moi, je viens juste de commencer à headline les dernières 2 années les major comedy clubs. So là, je commence à headliner. Puis pas avant que j'ai commencé à être tête d'affiche que j'ai réalisé comment c'est beaucoup plus difficile en anglais de headliner à cause de la dynamique entre le public et les humoristes, right? En français, par le temps que tu headlines ou tu fais tes propres shows, tu te loues une salle, comme tu as dit, tout le monde qui vient te voir sait t'es qui. Que tu vas être au Troquet, tout le monde sait t'es qui, ils viennent te voir, all right? So le public est ton public à perdre. Right. So tu commences ton number, tout le monde est excité de te voir, ils sont dedans, ils sont en feu, let's go. En anglais, t'as un animateur, t'as un feature middle act qui fait un 20-25, puis là, t'es headline pour un 45-55 minutes. Faut que le show augmente. Pas le choix, l'énergie, faut que ça augmente. T'es le headliner, OK? Ouais. T'as des feature act, des middle qui sont super forts, que tu peux get away with, l'énergie reste pareil, mais ça peut certainement pas dipper. OK, il faut que ça continue à monter parce que t'es le headliner. Puis les gens s'attendent à ça, mais y a pas un Chris de choc qui sait t'es qui.
Ça le rend plus difficile.
Ça le rend plus difficile. So, en anglais, le public, il faut que tu les gagnes. En français, par le temps que tu es tête d'affiche, ils sont les tiens à perdre. En anglais, ils sont là. Ça va être incroyable. J'ai aucune idée c'est qui, ben, ça va être malade. So, win them over. Tu n'as pas le choix. Puis j'ai jamais catché ça avant que j'ai commencé à headliner. J'ai jamais catché ça. Puis aussi, comment est-ce que des headliners se choquaient après des premières parties qui faisaient trop longtemps. Tu sais, tu fais un guest spot à un comedy club, tu es supposé de faire 8 puis tu fais 12, le headliner choquait. J'étais comme, quand je faisais des guest spots, puis si j'allais un peu over, j'étais comme, what's the big deal? Well, quand tu commences à headliner, tu réalises, motherfucker, c'est mon public, il faut que je les win over, puis ceux qui sont épuisés, c'est that much
plus
difficile.
Ouais, s'ils sont plus fatigués, ouais.
Et c'est beaucoup plus difficile, puis si le middle est super fort, c'est encore plus difficile. So, c'est comme, OK, so, il y a une huge pressure, c'est moi le headliner, puis il faut que le show augmente. Il faut que l'énergie monte, il faut que ça soit meilleur. C'est la best partie du show. C'est pour ça que ça prend 10, 12, 15 ans à headliner. Tout le monde pense que c'est différent pour les autres quand tu commences en anglais. Moi, je veux dire, comme j'ai headliné des gigs avant comme dans des bars où je faisais des corpos, tu faisais 60 minutes en anglais. Mais headliner un major comedy club où quelqu'un vient un samedi soir, puis c'est comme...
Il ne connaît pas t'es qui.
Il ne connaît pas t'es qui. C'est beaucoup de pressure, puis you gotta deliver. C'est pour ça que c'est comme plus de pressure, puis que ça prend plus longtemps à devenir headliner en anglais. Mais c'est à cause de ça, c'est un flawed système dès le début. C'était fucked up.
C'est comme si tu caches un peu pour que comme ils vont pas promouvoir tes habiletés ou toi comme une stand-up. Comme tu as dit, c'est les clubs, c'est selon. Alors, même si tu deviens le meilleur stand-up au Canada, personne va le savoir.
C'est ça. Puis mais c'est pour ça que Hack kills dans les comedy clubs because, again, les
tu sais que c'est une formule qui va marcher.
C'est une formule qui va marcher. Les publics sont stupid as far as ils savent pas t'es qui ou c'est quoi. Puis pour un public average, Hack, c'est hilarious. Ça déchire tout. So, c'est pour ça que t'as comme t'as des humoristes, des old school guys qui le font depuis whatever. Comme j'ai dit, on le met en 45 depuis 94. Puis ça marche parce que le public, ils ne savent pas. Public uniquement canadien-anglais.
Ouais.
Il y a beaucoup moins de comedy nerd canadien-anglais. Aux États-Unis, il y a un huge amount de comedy nerd.
Ouais, là,
au Québec,
pas, ouais.
Il y a un huge amount. Mais canadien-anglais, ils sont sheltered. Ils allaient en comedy club, ils avaient un good time. Ils font pas de recherche. Ils savent pas c'est qui. Ils savent pas si le matériel a déjà été fait par 20 autres gars, si c'est une vieille prémisse. Ils savent pas si c'est hack. Ils savent... So, t'as des hacks qui vont sur scène, puis ils pètent tout, puis they blow the roof off the place. Parce que le public, they don't give a fuck. Ils veulent juste sortir, pour un good time, avoir une coupe de drink, have a laugh, heckle, that's it.
J'aime pas ça. Je pense
non,
à ça, puis
non.
Ça m'énerve.
Oui, oui. Oui.
Ça m'énerve parce qu'ils vont se faire ridiculiser. Il n'y a pas d'évolution.
Exact. Ben, je crois que ça va venir à un point, un crossing point, où c'est comme, faut qu'on se rattrape là aux États-Unis, au Québec, à UK.
C'est pas possible avec le système qu'il y a maintenant parce qu'il y a trop de gatekeepers.
Ben, comme tu as dit,
le seul moyen, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant.
Puis ça change à cause de
ça. À cause d'Internet.
Puis ça commence à changer même au Canada anglais. Ça commence à changer plus. Il commence à avoir plus de comme equalizer, comme tu dis, avec des podcasts. Puis ça va rattraper à cause de la technologie. S'il n'y avait pas de podcast puis d'Internet, forget it. Ça ne changerait jamais.
Ouais.
Mais avec, je crois qu'on va, rattraper le Québec puis les États-Unis en tant que juste... comme juste le...
La qualité.
La qualité, puis juste le inner workings du système, de comment ça marche. Je crois qu'eventually, ça va être aboli.
Je pense que c'est important que les humoristes peuvent gagner leur vie avec ça. Puis c'est presque impossible au Canada. C'est juste... C'est pas tout le monde qui peut vivre.
Trust
me. C'est ça que je pense que c'est difficile. C'est pour ça que tu vas pas avoir des nouveaux stars et tout ça, parce que personne ne veut rester à 100% quand ils ne peuvent pas payer leur loyer.
C'est ça l'affaire. C'est, au Canada anglais, c'est parti du plan de décoller. C'est comme, OK, c'est quoi ton plan? Quand tu commences un humour, c'est comme, OK, je vais commencer ici. Je vais commencer dans mon hometown. OK, je vais commencer...
Je vais aller à Toronto.
Je vais aller à Toronto ou Vancouver, mais juste Toronto. Puis là, je vais aller à New York ou LA ou London. C'est ça le plan. Ça, c'est comment stupide que c'est. Faut que tu fucking planifies de décoller. Moi, je veux pas décoller. J'adore le Canada. C'est great. Il dit pas de légal. C'est awesome ici. Comment ça se fait, faudrait qu'on décolle? Puis pas avant que j'ai découvert l'humour en français que j'ai réalisé que j'ai pas besoin de décoller. I mean, j'ai décollé. J'étais à New York pendant 2 ans. Mais.
Ouais, pour anglais.
Pour anglais. Ouais. Puis, à moins que tu te carves une niche du côté corpo, ça c'est possible. Tu seras jamais comme un huge star, peut-être, connu. Mais tu peux faire une shit tonne d'argent en anglais dans le monde du corpo. I mean, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Ça, c'est comme mon gang-pain. C'est pas great. I mean, les corpos suck. C'est pas ton first choix. C'est jamais le plan d'un humoriste qui se lance en humour de je vais commencer ici, je vais déménager à Toronto, là, je vais devenir un corporate comedian.
Ouais, ouais.
C'est jamais le plan.
Hey, mais... Sylvie, qu'est-ce qui se passe avec les fax? Ouais, ouais, c'est...
Exact. Ah, ça, non. C'est le bullshit. Comme
oh, ça fait mal.
Jamais que tu sors de la scène, comme rarement. Il y en a qui sont le fun des corpos, mais c'est rare que tu finis un show corpo et tu es comme fucking right, j'ai un artiste, moi. C'est jamais ça. T'es comme, ugh, je suis une whore.
Ouais. Ben, on est tous des putes.
Ouais, on est tous des putes. Mais beaucoup plus du côté corpo. Comme un corpo, ça, c'est une autre affaire. En français, tu peux commencer à faire presque tout de suite. Okay? En anglais, ça prend beaucoup d'années. À faire des corpos, ça paye comme 5 000 $ en montant pour un 60. Parce que tu fais 60 minutes dans une salle de banquet dans un hôtel où c'est 400 personnes. C'est rough. T'as besoin de l'expérience. Mais t'apprends que ça n'a rien à faire avec ton stock. C'est moi, quand je fais un corpo, c'est pas mal le seul truc. Tu find out quel nom de la compagnie. Tu t'envoies un courriel au contact. Hey, peux-tu me donner un peu de dirt sur n'importe qui ou n'importe
CEO,
quoi?
Ouais.
N'importe qui, n'importe quoi. Juste, ça les allume. Oh my God, oui. Bob, il fait chier au golf. Il est pas bon. Gisèle, elle a beaucoup trop bu au party non, l'année passée. OK, merci. C'est tout ce que tu as besoin. T'embarques sur scène. Hey, Greater Toronto Air Conditioning and Refrigeration, what's up? Hey, Bob, j'espère qu'il n'y a pas de golf sur l'agenda en fin de semaine. Ah! Hey, Gisèle, je vois que tu es loin du bar. Reste là, OK?
Sinon, elle va vous soucier tout.
Puis là, tu fais ça. Puis là, tu vas dans ton matériel. Là, il y a une huge dip d'énergie. Puis là, tu es comme, oh, whatever. You sweat it out pour 60 minutes. Oh. Tu débarques sur scène. tu penses pas que je m'ai kind of planté, mais elle arrive à toi après, c'est comme, oh my god, quand c'était pas là, Bob, ça c'est la funniest affaire que j'ai ever entendu de ma vie. T'es comme, moi, mais j'ai rien dit, j'ai juste dit qu'il comme,
il est pas bon, il est pas au bon golf.
Mais ça c'est comme, c'est tout ce qu'il s'en, il s'en rappelle juste de ça. Il pourrait pas s'en rappeler d'un Christ de gag. Juste ça. Ah, oh, quand c'était roasté, j'ai dit, je l'ai même pas roasté, j'ai juste dit, reste 20 pieds du bar at all time. Ah, oh, c'était genius.
Ça me fait mal au cœur.
Ah ouais, exact.
Ça fait pas.
C'est pour ça que je puis beaucoup d'humoristes anglophones deviennent bitter.
Ouais.
Je suis fucking bitter.
Amer.
Amer.
Ouais.
Comme amer puis négatif. Moi, j'étais tout le temps positif, good guy, fucking tout le temps dans ma vie. Puis
ça
là,
te détruit, ouais, parce que tu mets de l'effort.
Mm-hmm.
Moi, j'aime ça. Je rappelle ça aux Québécois parce que des fois, ils pensent que la qualité ici ou le Québec est un peu en arrière. Mm-hmm. Puis j'essaie toujours d'expliquer non. Tu comprends pas comment c'est bon. T'sais, au stand-up, je suis pas dans notre milieu pour savoir de qu'est-ce qu'on a ici. Alors, tu dois être fier puis le garder comme ça.
Oui, oui.
Regarde pas les autres puis dire oh, on est moins qu'eux. Parce que tout le monde que je parle avec, même les Américains, quand ils voient qu'est-ce qu'on a au bordel, on va dire, ils sont jaloux.
Oui, ah bah oui.
Alors, bro, c'est important de montrer ça aux Québécois, de dire, hey, non, vous avez créé quelque chose d'intéressant. Les Américains qu'on regarde comme le mecca de stand-up et tout ça, quand ils viennent ici, comme, oh fuck, jaloux de ça, imagine ça partout. Ouais. Ça, c'est important. Ça, c'est une bonne badge of honor.
Oui, c'est vraiment. Et faut que j'avoue qu'il y a un dit temps en humour que tu peux toujours avoir une opportunité trop tôt dans ta carrière, mais jamais trop tard. All right? Qui veut dire, tu bookes un gala ou quelque chose à la télé, deux ans in parce que t'as un peu de heat sur toi. Peu importe ce que tu penses de ton humour, quand t'es deux ans in, ça va pas, c'est pas assez fort. Puis quand tu vas être 10 ans en humour, puis tu vas regarder ce qui est maintenant sur l'internet pour toujours, tu vas avoir honte, puis ça va juste être out there. Mais tu peux jamais être trop tard pour une opportunité. Qui veut dire que tu seras toujours juste meilleur, right? Parce que stand-up, tu t'améliores forever. Que si tu le fais pour 15 ans, tu étais mieux à 15 ans que tu étais à 10. Tu le fais pour 20 ans, tu es mieux à 20 ans que tu étais à 15, 27. Tu es toujours en train de kind of évoluer. Si tu cares, hacks aside, tu es toujours en train de travailler sur ton métier puis que tu évolues. So, je dis kind of en joke quand je suis amer, mais je le suis. Mais j'avoue que j'ai beaucoup de fun, beaucoup de plaisir une fois que j'embarque sur scène parce que j'ai un énorme montant d'expérience, peu importe la situation. Puis ça se traduit aussi en français. So, quand je le fais au Québec, c'est oui, ça fait juste 4 ans que je le fais en français au Québec, mais ça fait... Le 15 ans d'expérience se traduit
Pour moi aussi.
Sur scène.
Ça,
right?
Ça m'aide, ouais.
So, ça, c'est le fun. Je peux chier sur l'industrie, tout ça, puis dire que je suis amer, mais aussitôt que je déclippe le micro du... Ça, c'est le best temps. Puis, parce que c'est vraiment la première fois de ma carrière, dans les dernières comme 2-3 ans, où ce que j'ai vraiment du fun. Je me sens en contrôle. Je me sens finally capable. Je sais pas si t'as déjà entendu la citation de Ira Glass, NPR.
Non, dis-moi.
Il dit que c'est vraiment un great quote. C'est comme de 2 minutes et demie. J'encourage aux auditeurs d'aller sur YouTube. Tu mets Ira Glass Creativity, quoi de même, ou Amateur. Il parle de... N'importe qui se lance dans un métier qui est créatif, humour, peu importe. Tu te lances là-dedans parce que tu as des bons goûts, right? Tu sais c'est quoi du bon humour, tu sais c'est quoi du bon
théoriquement, on va dire, oui.
Right? Théoriquement.
Ouais.
Mais tes habiletés ne matchent pas ton goût, right? Une huge gap.
Ouais.
C'est impossible.
Au début.
Ouais. So, c'est souvent que tu commences, que tu te lances à quelque chose que tu aimes parce que tu as du bon goût, en théorie, pour la majorité des gens. Mais... tes aptitudes ne matchent pas du tout ton goût. Il y a une huge, huge gap. So, souvent, tu débarques sur scène et tu es comme, oh fuck, tu ne feels pas great de ce que tu viens de faire ou le travail que tu fais en général, même si tu travailles fort. Parce que ton goût ne matche pas tes aptitudes. Ton skill set, il y a une huge gap. Puis la seule façon de bridger ton goût avec tes aptitudes, c'est juste de travailler à travers de. Juste travailler.
Ouais, tu ne vas pas rabaisser tes goûts. C'est toi qui dois améliorer pour arriver là. Ouais.
Exact. So, puis la seule façon, c'est de travailler, en anglais, dit, through a huge body of work. Just travaille. Si tu es écrivain, just écris, write for the trash. Si tu es humoriste, fais du stage time. Éventuellement, cette gap-là va shrinker,
rapetisser
où ce que tes goûts là, match ton skill set. Là, c'est vraiment le fun.
Puis quand tu rapproches assez, là, c'est... Ouais.
Puis là, c'est vraiment le fun. Okay? Puis c'est là que, pour le faire pour 16 ans, là, ça fait comme une couple d'années où encore mon skill set match, pas totalement mon goût, mais la gap est beaucoup moins, elle est beaucoup plus petite, puis c'est beaucoup, beaucoup plus le fun. I mean, c'est vraiment le fun.
OK, non, moi je pense que je commençais à avoir du fun, du vrai, vrai fun, ouais, plus que 5 ans, peut-être 6 ans. Ouais, j'avais toujours du fun, mais c'était comme tu dis, il y avait toujours quelque chose qui me manquait, je pensais jamais que j'étais assez bon. Puis après 5 ans, là, j'étais comme, OK, non, maintenant, je contrôle un peu plus. Mais je pense que j'ai vraiment trouvé mon rythme quand j'ai devenu confortable en français.
Oui.
C'était pas en anglais, c'était en français que j'ai devenu plus... Parce que là, j'avais le public pour jouer avec.
Right. Trouves-tu que si tu le fais en français, tu as une extra étape de ton cerveau qui doit se faire pour traduire?
100%.
Right? Ouais. Comme en anglais, je suis sûr que je pourrais te réveiller à 3 heures du matin et dire « Fais 60 minutes. »
Oh ouais, ça fin. C'est... Oh,
mais ouais. En français, il y a juste, puis c'est juste une fraction de seconde, une ouais. Milliseconde.
Ça change tout.
Mais ça change tout, t'es plus sur tes autres têtes.
Mais pour ça, je pense que c'est pour ça que je l'aime mieux maintenant, parce que c'est comme quand tu vas trainer au gym. Tu sors, oui, t'es fatigué, mais t'es comme « fuck bro, j'ai travaillé ».
Right.
Je pense que j'ai ça en français. J'aime quand c'est hors scène, je suis comme, tous les rires, tout ça, bro. J'ai travaillé pour les avoir. C'était pas facile, mais je les ai eus. Alors, je pense pour ça, je le respecte un peu plus parce qu'il y a beaucoup d'efforts que je mets dans ça.
Mm-hmm.
Puis même les podcasts aussi. Il y a de l'effort de faire beaucoup. Moi, je fais beaucoup de podcasts pendant la semaine. Je mets beaucoup d'efforts pour être attentif puis d'aimer le faire, aimer parler. Tu sais, toi, tu fais des podcasts. C'est pas tout le temps évident.
Mm-hmm.
Le monde pense, oh, c'est juste parler dans un micro.
Non, mais c'est.
Non, c'est pas juste ça, man.
C'est pas juste ça. Puis c'est parler de. Mon seul conseil que je dis à any nouveau humoriste, c'est pas ton soirée, puis pas ton podcast. Pas ton soirée à pour devenir confortable sur scène, pour avoir un environnement où tu peux être confortable sur scène. Si tu pars une soirée hebdomadaire, tu es sur le même stage à toutes les semaines, c'est le même staff. Tu deviens confortable avec l'environnement. Puis ça, ça prend des années. So, si tu peux cultiver un endroit, un lieu où tu es confortable sur scène toute ta carrière, I mean, ça, c'est. Il y a incroyablement beaucoup de valeur là-dedans.
Ouais.
So, je dis, pars une soirée. Trouve-toi un petit bar avec une scène, quelqu'un qui veut commencer un open mic ou whatever. Puis pars-toi un podcast. Parce que ça, c'est une autre chose que j'ai découvert durant la pandémie. J'ai porté mon podcast en 2014, inconsistent, j'étais pas vraiment constant. J'ai commencé, j'étais très constant, là, j'ai pris comme un an de pause, puis là, je revenais pour faire des épisodes random, j'étais là. Mais durant la pandémie, là, j'ai commencé full pin, là, je le faisais 7 jours sur 7, là c'était 5, là c'est 2. C'était juste
trop. Mais tu travailles.
Ouais, je travaille, puis c'est ça, les shows ont recommencé, peut-être ça, là c'est 2 fois par semaine. Mais ce que j'ai trouvé quand ce que... Il n'y avait pas de show d'humour, mais je faisais des podcasts tous les jours. Une fois que j'ai commencé de nouveau à faire de l'humour, je me sentais très, très confortable, beaucoup plus que si j'avais rien fait. Right? C'est pas la même chose que faire du stand-up. Sûrement, il n'y a pas de pression d'avoir tant de rire par minute, pas tout ça. Mais c'est quand même capter un public avec un micro. C'est parler dans un micro, souvent seul. Je le fais avec ma femme, mais j'en fais beaucoup qui sont seuls aussi. Juste des solo pods où tu parles juste pour 1 heure. Il faut que tu divertisses un public. C'est pas nécessairement besoin d'être hilarant non-stop, mais il faut que ça soit
pertinent,
divertissant, il faut que tu les captes, il faut que tu les gardes. C'est comme un muscle que tu entraînes qui fait partie de ton régime de stand-up que tu te rends pas compte quand tu le fais pas. Right? Comme je donne l'exemple, je faisais du weightlifting à un tel point, puis là j'avais arrêté, puis je courais. Je commence à courir, je courais tous les matins. Puis là, je commence à faire du weightlifting de nouveau, m'entraîner, poser l'haltère. Puis quand j'ai recommencé à m'entraîner, mon squat était beaucoup mieux ever avant parce que je courais, right, à tous les jours. Même si je ne faisais pas
des squats
ou des heavy leg day ou des sit-ups où je m'entraînais juste les jambes, je courais tous les jours. Puis je m'entraînais un muscle sans être trop sourd ou rien. Mais je m'entraînais tous les jours, je courais, c'était un muscle que je me rendais pas compte que j'utilisais. Même si c'est kind of obvious, c'était jambes, puis là c'est du squat. Mais mon squat était, j'étais beaucoup plus flexible, je pouvais aller plus bas, je pouvais squatter beaucoup plus. C'est la même affaire avec des podcasts puis l'humour.
Tu dois squatter pour être bon dans les podcasts, je suis avec toi, bro.
Exact, ça c'est comme, c'est exact. Mais c'était pas avant que j'ai commencé, durant la pandémie, quand j'avais pris 5 mois off d'humour. J'avais pas fait de show d'humour pendant 5 mois. J'avais jamais pris plus que 2 semaines en 15 ans. que j'ai pris 5 mois, puis là, j'ai retourné sur scène. Comparé à d'autres humoristes que j'étais sur les shows avec, j'étais beaucoup plus calme, j'étais pas nerveux. Dans le micro, sur scène itself, je me sentais beaucoup plus confortable. C'est comme ça que je parle dans un micro tous les jours pour 1 heure. Tu sais,
moi aussi, quand on avait retourné pendant la pandémie, parce que je faisais des podcasts,
oui.
J'étais le seul, j'avais retourné en anglais, puis tout le monde était comme un peu nerveux, puis tout ça. Puis ils m'ont dit, oh, on t'a booké à cause que tu faisais des podcasts pendant la pandémie. Alors, on a su que s'il y a quelqu'un à Montréal qui est confortable encore,
right.
Ça va être toi.
Exact.
Puis j'étais comme, oh, fuck, ils ont raison, parce que j'étais confortable, parce que j'étais habitué, je parlais... pour mon public, presque tous les jours, on faisait beaucoup de live, on n'avait rien à faire.
Mm-hmm.
Alors, j'étais confortable. Ça rajoute, ça aide.
Ça rajoute.
Toi, ta femme, elle est humoriste.
Oui, elle est.
T'as rencontré où?
Au Yakex, à Ottawa, en 2009. Ça fait 14 ans. Ça va faire 14 ans, mois de février, qu'on est ensemble. Oui, elle, ça fait 23 ans qu'elle est en humour. Elle est awesome, I mean.
Tu me parlais, puis j'ai vu, elle fait beaucoup de headlining. Elle est bien connue.
Ça fait longtemps qu'elle est une headliner. Jen Grant. Check it out. The Julian Dion Show with Jen Grant.
Ouais, les liens sont dans la description anyway.
OK,
pour,
cool.
Aller te voir en ligne, puis ton podcast, puis tout ça. Puis en français, tu vas-tu commencer quelque... Parce que moi, je vois des affaires sont en anglais.
Oui.
Vas-tu commencer quelque chose en français?
Qu'est-ce que tu veux dire, un podcast?
Ouais.
Ouais, je vais commencer, je pense. Connais-tu Jonathan Biggie Binet?
Non.
C'est
humoriste?
Non, c'est directeur technique une des salles à Laval, je me souviens plus quelle. Mais il a fait beaucoup de tournées. Il est venu en Inuvit avec Mike, puis Eddie, puis moi, puis great guy. On savait porter un podcast au début de la pandémie, juste avant la pandémie, puis là, ça a raté. On va se reporter, surtout là que j'ai un pied à terre à Montréal, là, je vais...
Rentrer, faire ton podcast, ouais.
Exact. So, je vais définitivement commencer à faire des podcasts en français. J'allais peut-être faire juste mon show mais en français, mais là, je vais faire de quoi avec Jonathan Biggie-Binet, là. Mais définitivement faire mon podcast en français. Mais j'adore ça. I mean, le podcast en anglais, ça va great. Ça fait longtemps qu'on le fait. On a pas beaucoup de vidéo views.
C'est audio.
Oh, c'est beaucoup d'audio.
Ouais, j'aimerais bien te donner des indices, ouais. Mais moi, j'ai le même problème. Je sais pas comment rendre le monde qui aime ça audio... de le regarder sur YouTube. Ben, je ne peux pas forcer le monde, anyway, mais moi non plus, je ne sais pas c'est quoi la stratégie.
J'ai une
bonne force en audio,
ouais.
Je ne sais pas comment la traduire sur
YouTube.
Moi aussi,
I mean, mes vues sur YouTube sont abysmaux. I mean, comme une douzaine, vingtaine.
D'une manière, je comprends que le monde, même moi, j'écoute beaucoup de podcasts, j'écoute sur mon téléphone audio.
Dude.
Alors, je suis une des personnes que moi, je dis, pourquoi est-ce que tu ne le regardes pas? Mais je suis cette personne, moi non plus. Moi, je ne regarde pas.
Je suis encore à 100%. Puis moi, si j'écoute mon podcast, je l'écoute pas souvent, mais des fois, j'écoute un épisode ou whatever, juste pour voir comme...
Moi, c'est d'une extra. Je le mets sur YouTube. C'est une extra. Tu vas avoir une clip, tu vas avoir l'épisode. Peut-être que tu vas l'aimer. Subscribe.
Puis ils disent « Video is the future ». Le vidéo, c'est le futur. So,
pour les podcasts, c'est difficile parce que même si tu l'as sur ton écran, tu vas pas regarder pendant 1 heure,
ben,
2 heures.
Ça.
Tu vas partir, puis tu vas l'écouter, tu vas faire tes travaux.
Ben honnêtement, moi, si j'écoute mon podcast, puis je l'écoute sur YouTube ou je l'écoute audio, c'est un show totalement différent. Je trouve que c'est beaucoup mieux audio. Comme j'ai une sound machine, une soundboard, je fais des sound effects, comme je gosse ma femme avec ça. Puis quand je l'écoute, puis notre producer Jordan aussi a dit, c'est pas le même show quand tu l'écoutes. Elle dit, c'est tellement mieux l'écouter audio que... Comme c'est fine sur YouTube, puis on le fait juste pour être partie de la game. C'est comme.
Ouais, moi aussi, je veux faire partie de la communauté. Je veux pas.
C'est ça, c'est kind of weird si tu n'as pas de vidéo à cette époque.
C'est ça, le monde trouve ça weird, ouais.
C'est ça, so, tu l'as kind of de besoin, mais c'est aussi kind of gênant quand ils vont voir, puis t'as fucking presque pas de views. So, anyway, allez-vous subscribe.
Ouais, puis moi, je comprends parce qu'imagine Poseidon, right? Imagine regarder sa face. Ouais. C'est difficile pour le monde, je comprends.
Ben oui, il a coupé ses 2007 Britney.
Je donne juste une excuse parce qu'il a changé les caméras puis il aime ça mettre le picture in picture. Alors, je lui donne, une opportunité de faire ça.
J'aime comment tu savais que j'allais le faire.
Ouais, je le connais, bro. Je le connais. Alors, Julien Dion, merci d'être venu au Frenchcast.
Ouais, merci.
Tous les liens sont dans la description. Si vous avez aimé ça ou si vous êtes à Gatineau, si vous êtes proche de où Julien va jouer, puis si vous êtes à Montréal, ben, il va être au bordel maintenant plus souvent.
Plus souvent. Je peux-tu plugger ma soirée?
Bien sûr, 100%.
Les jeudis soirs au Troquet dans le Viol, à tous les jeudis, j'anime une soirée. Venez voir ça. C'est une soirée headline, un headliner avec deux premières parties. C'est un good time. Les jeudis stand-up au Troquet dans le Viol. Mon podcast, The Julien Dion Show with Jen Grant. Check ça sur les réseaux. Merci, bro. Big time.
Merci, Julien.
Oui.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.